يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous avons parlé la dernière fois d'un hadith qui se trouve dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ala bab al-jannah, je me suis mis devant la porte du paradis. فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ. Donc la plupart, la majorité de ceux qui sont rentrés au paradis, c'était des pauvres, des masakines, des gens indigents, des gens qui ne sont pas très connus, pas très riches, pas forcément très célèbres, des gens ordinaires. وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُسُونَ. Et les gens riches, ben, ils sont en train d'attendre leur jugement, parce que le jugement dure longtemps. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il y aura plus de pauvres au paradis que de riches, mais les pauvres vont, et ça c'est certain, vont aller au paradis avant les riches, parce que leur jugement, il est facile. Parce que la chose la plus difficile dans notre jugement, c'est l'argent. L'argent, ce serait un jugement très très compliqué, parce qu'Allah te demandera pour chaque euro que tu as gagné, comment tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé. Donc deux questions par euro. Donc comment tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé. Il y a une responsabilité, comment tu gagnes ton argent, et la deuxième responsabilité, comment tu dépenses ton argent. Donc c'est pour ça que, imaginons quelqu'un qui est très très riche, ben, il va certainement, Inch'Allah, comme Abdurrahman ibn Auf, il va aller au paradis rapidement après son jugement. Mais il va aller au paradis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le paradis. Mais un jour, ça me rappelle une histoire où Abdurrahman ibn Auf, Aïcha, a dit: les riches vont aller au paradis à quatre pattes, c'est-à-dire lentement, d'accord, à quatre pattes. C'est comme s'ils marchaient à quatre pattes. عبد الرحمن بن عوف il dit والله لا ادخلنها جاريا. Par Allah, je vais aller au paradis en courant. On lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, vous voyez la caravane qui arrive là? Il y avait une caravane de des centaines de chameaux, plein de denrées alimentaires, plein de tissus, plein de choses qui arrivent du Yémen. Il dit, toute cette caravane, je la consacre aux pauvres de Midi. Juste pour répondre, hein, mais c'est quelqu'un qui donnait énormément, Abdurrahman Naouf. Il gagnait énormément, mais il donnait énormément. Donc il jure qu'il allait au paradis en courant. Parce que certainement, quelqu'un comme lui, ben, il va être à une place beaucoup plus importante que celui qui est pauvre. Parce qu'il était riche, Allah lui a donné de l'argent, et malgré l'épreuve de l'argent, il a réussi l'épreuve de l'argent. Donc c'est sûr que des gens comme Abdurrahman ibn Aouf, des gens riches qui savent, qui gagnent de l'argent halal, et qui le dépensent dans le halal, et qui aident les autres, ben, ceux-là, ils vont aller en premier, certainement. Donc, وأصحاب الجد لجوريش محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. Et donc, et les gens de l'enfer sont déjà en enfer, mais les gens riches qui sont en train de se questionner, ils sont محبوسون, donc ils attendent. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. Donc, ce hadith il dit aussi que majoritairement les gens de l'enfer c'était parmi les femmes. Et ce hadith-là, c'est pareil que l'autre. C'est pareil quand on parle des femmes, c'est pareil aussi pour al-Masakin. Beaucoup de savants, quand ils expliquent ce hadith-là, ils expliquent que, certes, il y aura plus de femmes en enfer, mais c'est des gens qui vont pas... c'est pas éternellement en enfer. C'est-à-dire à la fin, il y aura autant d'hommes que de femmes au paradis, mais c'est des gens qui vont aller... Comme on a dit tout le temps, qui vont être en enfer pendant un certain temps, mais ils vont sortir de l'enfer. Parmi ceux-là, il y a plus de femmes que d'hommes. Parmi ceux-là, qui vont aller en enfer d'abord pour aller au paradis après, il y aura plus de femmes que d'hommes. Mais on aura un autre hadith qui nous dira aussi que, d'une manière générale, les hommes sont plus nombreuses que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, même au paradis. On va le citer l'autre hadith. Donc ce hadith-là, هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء? Est-ce que les femmes, les hommes sont plus nombreux au paradis? تخاصم الرجال والنساء. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un petit débat, on va dire, entre les hommes et les femmes. والصحابة أحياء. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient encore vivants. ففي مسلم عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة وفي رواية إما تفاخروا أو تذاكروا. Donc les hommes et les femmes, il y avait un débat entre les hommes et les femmes, qui sera plus nombreux au paradis, الرجال في الجنة أكثر أم النساء. فسألوا أبا هريرة, sont venus voir أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'apprentissage et à la science. Abu Huraira, il est devenu musulman pendant la bataille de Khaybar, à l'époque de Khaybar. Khaybar, c'est la 7e année, entre la 6e et la 7e année. 4 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Donc Abu Huraira, il reste combien de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abu Huraira? Ben, il a pris une décision de ne rien faire que d'être devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps. Quelle réflexion, subhanallah. Allah lui a donné cette intuition, c'est que je surveille le prophète, j'écoute tout ce qu'il dit et j'essaye d'apprendre par cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait même une doha pour que son apprentissage soit parfait. D'accord? Donc il lui a fait une invocation spéciale à Abu Huraira pour que son apprentissage soit parfait. Et donc, il apprenait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les kutub des hadiths, quand vous regardez Bukhari et Muslim, qui est le premier compagnon qui a rapporté les hadiths? L'Abu Huraira. Plus de 5000 hadiths. Même plus que Aïcha radiallahu anha. Aïcha, c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Aïcha, elle était avec le prophète chez lui, chez elle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait. Il était plus peut-être avec ses compagnons. Plus Abu Huraira, il a pris un... Donc, il ne travaillait pas.
Il n'a pas voulu se tracasser avec un travail ou quoi que ce soit parce qu'il ne voulait rien rater de la parole prophétique et d'être devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, Rabbi, Rabbi, il a fait de lui un musulman à ce moment-là pour tout apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 ans, ben, il nous a rapporté énormément de hadith. Il ne travaillait pas. Il était à l'intérieur, il vivait à l'intérieur de la mosquée. Et au fond de la mosquée, il y avait un endroit spécial. On l'appelle Makan ou Ahl al-Suffa. Si vous allez à Médine aujourd'hui, hein, si vous êtes dans la Rawda, hein, maintenant, avec l'application, vous pouvez aller et rentrer à la Rawda. Rawda, c'est l'ancienne mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tapis hiver. Si vous allez regarder derrière, vous avez une petite montée comme ça. Vous avez le sol qui est normal, mais au fond de la mosquée, au fond de cet endroit, ça monte un tout petit peu. Mais c'est là où Ashab al-Suffa se mettait. C'est quoi Ashab al-Suffa? C'est les gens pauvres. Ils n'ont rien. Ils attendent les dons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand il recevait une sadaqa, ben, il dit, amenez-la à Ashab al-Suffa. De la nourriture, parfois des habits. Abu Huraira était jeune, mais il n'a pas voulu travailler. On va dire, il aurait peut-être fait mieux de travailler et de... Non, il ne voulait rien rater de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il mangeait sadaqa. Il mangeait sadaqa. Mais il avait un objectif. Regardez comment les gens priorisent dans leur tête. Moi j'ai une priorité, c'est d'écouter le prophète. Donc il faisait que ça. Il a préféré manger la sadaqa, mais être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, là où le prophète va, il lui demande l'autorisation de le suivre. Et le prophète, généralement, il autorisait Abu Huraira d'aller avec lui. Parfois, il n'y a que lui et Abu Huraira. Il y a plusieurs histoires comme ça. Il n'y a que le prophète et Abu Huraira. Et donc, Abu Huraira nous a rapporté énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un homme qui connaissait bien les hadiths parce qu'il avait ce souci d'apprendre et de transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de ça un objectif. Il ne connaissait pas beaucoup de Coran. Il connaissait le minimum, hein, mais il connaissait beaucoup, beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment la spécialité peut aider. Nous, on aime bien être généraliste. J'apprends un peu ici, j'apprends un peu ici. C'est bien d'apprendre un peu partout, mais il faut qu'il y ait un domaine dans lequel tu deviens un spécialiste. Tu dis, moi, j'apprends ma religion, j'apprends tout, mais j'aimerais bien que dans ce domaine, ben, je serai une référence. Abu Huraira, c'était la référence en matière de hadith. Donc, radiyallahu anhu. Fa sa'alu Abu Huraira. Ils sont venus voir Abu Huraira pour lui demander. Abu Huraira, il dit, les femmes sont plus nombreuses que les hommes au paradis. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au paradis. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, فأحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi Abu Huraira dit ça? Il dit, ben, moi j'ai le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit, إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر. La première vague de personnes qui vont aller au paradis, vous les voyez comme la lune le jour où la lune est pleine. والتي تليها على أضواء كوكب. La deuxième vague, c'est comme vous voyez l'astre le plus lumineux dans le ciel. Et après il dit, les kullimri'in minhum zawjatan ithnatan. Donc chaque homme parmi ces gens-là qui vont au paradis, il aura deux épouses. Deux épouses en dehors des femmes du paradis, des femmes humaines. Deux épouses. Donc ces gens-là qui vont aller au paradis, les premiers, la première et la deuxième vague, ben, chacun d'eux aura deux épouses. Il y aura mukhsouqihima min wara'il lahm, donc il décrit la beauté. Wama fil jannati a'zab. Il dit, au paradis, il n'y a pas un homme qui n'est pas marié. Tous les hommes du paradis sont mariés avec des femmes de ce bas monde. Donc, pour Abu Huraira, donc il y aura plus de femmes en regardant ce hadith. Donc, voilà l'explication de cette. وقد وفق القرطبي الامام القرطبي il a trouvé, parce que on a l'impression que les deux textes se contredisent. Il y a un texte qui dit la majorité des gens de l'enfer sont des femmes, et un texte que Abu Huraira explique que la majorité des gens du paradis sont des femmes. Donc on peut... Al-Qurtubi, le grand imam Al-Qurtubi qui a fait Ahkam al-Qur'an, hein, le meilleur tafsir en ce qui concerne les règles juridiques, c'est Ahkam al-Qur'an. Il fait 16 volumes, je crois. C'est un grand livre. On ne l'a pas ici, mais c'est un grand livre. Hein. 16 volumes, des grands volumes. Et il a été écrit par Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, il est de quelle ville, Al-Qurtubi? Espagne, Cordoba. Cordoba, c'était la mecque de la science musulmane, on va dire. L'endroit où il y a énormément de savants. Cordobi, c'est quelqu'un de Cordoba. Et il a écrit un très très bon livre. Donc, Cordobi, dans son tafsir, il a un tafsir généraliste, mais il s'intéresse beaucoup aux versets qui parlent de l'ahkam. L'ahkam, c'est la jurisprudence. Il dit... Les deux textes sont... On peut trouver une entente, on peut trouver une explication pour regrouper ces deux textes. Il dit, oui, les femmes seront plus nombreuses en enfer avant l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'intercession des anges, avant l'intercession des pieux, avant l'intercession des enfants. Oui, les femmes sont destinées plus que les hommes en enfer. Mais, in fine, ben, les hommes et les femmes seront tous au paradis, tous ceux qui méritent le paradis, bien sûr, et celles aussi qui sortent après avoir passé un moment en enfer. Donc, « يَخْرُجُونَ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهَا بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ وَرَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » Donc les femmes, au début, elles sont plus nombreuses en enfer, mais quand il y aura l'intercession, quand il y aura Shafa'a, et quand tous les croyants qui ont dans le cœur « La ilaha illallah » sortiront de l'enfer, elles seront plus nombreuses que les hommes. Voilà comment ce hadith peut être compris. Maintenant, « Atfal al-mu'minin » les enfants des croyants. Est-ce que les enfants... Nos enfants seront au paradis ou en enfer. Quand on dit les enfants, ce n'est pas les enfants qui sont devenus adultes. C'est les enfants qui sont morts enfants. Parce que si un enfant devient adulte, il est adulte avant la mort. Parce qu'on parle d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui meurt. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il sera en enfer ou au paradis? Est-ce qu'il sera jugé ou est-ce qu'il ne sera pas jugé? Atfal al-mu'minin alladhina lam yablughu al-hulm hum fil jannah. Ça, c'est la règle. Les enfants des croyants. Les enfants dont les parents sont croyants. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. C'est des croyants. Ces enfants-là, quand ils meurent, ils sont au paradis. Et là, il y a plusieurs délits, plusieurs hadiths, plusieurs versets qui le mentionnent. Pas directement, mais indirectement. Ils vont être au paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ceux qui sont croyants واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Donc là il dit que leurs enfants étaient comme eux des croyants, même petits des croyants. ألحقنا بهم ذرياتهم, on va rattacher les enfants à leurs parents. Donc l'enfant il sera rattaché à son père et à sa mère. Donc, il sera au paradis. Si le père et la mère sont au paradis, ben, l'enfant le sera aussi. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Abu Talib, Ali ibn Abi Talib, il dit, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ. Il dit, Ali ibn Abi Talib, عَلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتَسِبُوا فَيَرْتَهِنُوا بِكَسْبِهِمْ. Allah dit, chaque âme sera jugée selon ses œuvres. D'accord? Et ses enfants, est-ce qu'ils ont œuvré? Mais ils n'ont pas œuvré. Parce que les œuvres, et ça c'est connu par tous les savants, quand est-ce qu'on devient mukallaf? Mukallaf c'est quoi? C'est responsable. À quel moment on devient responsable? C'est à l'âge de la puberté. Quand on a la puberté, là on est responsable. Là, la prière devient obligatoire. D'accord? Allah, dans sa générosité, imaginez qu'un enfant n'est pas pubère, il fait la prière. Est-ce que cette prière comptera pour lui ou pas ?
Oui,
elle compte, alhamdoulilah. Imaginons qu'il ne fait pas la prière. C'est un péché pour un adulte. Hein. Est-ce que ce péché compte pour cet enfant ? Non, il ne compte pas. Allah subhanahu wa ta'ala, pour les enfants, il prend le bien, il prend les hasanat, mais il compte les hasanat, mais il ne compte pas les sayyat. Si un enfant donne une sadaqa, ben, ça serait pour lui une sadaqa acceptée. Elle sera comptée le jour du jugement dernier. Si un enfant ne fait pas la prière, ou un enfant qui fait un péché, ben Allah, alhamdoulilah, Allah ne compte pas le péché pour les enfants. Et donc, puisque chaque âme sera jugée selon ses actes, ben, il n'y aura pas de jugement pour ses enfants, parce qu'ils n'auront pas fait de péché. Yeah. C'est une très très bonne déduction de Ali ibn Abi Talib, qui était un homme très très doué, radiyallahu anhu wa arda. Al-Bukhari, radiyallahu anhu, rahimahullah, il dit dans son sahih, bab, il a dit, bab fadli man mata wa lahu waladun fahtasab. Il dit, un chapitre, il a appelé comment le chapitre? Et pour connaître, les savants, ils disent, pour connaître la science de Bukhari. Bukhari, c'est pas quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait, Bukhari, radiyallahu anhu? Il a regroupé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était un grand savant. Mais il n'a écrit son savoir nulle part. Parce que son savoir, c'est quoi? C'est le fait de regrouper les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit Sahih al-Bukhari. Il a écrit d'autres livres, hein, l'Adab al-Mufrad. Mais on ne voit pas la science de Bukhari parce que tout ce que dit Bukhari, c'est « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Mais elle est où la science de Bukhari? Elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée, les savants disent, le Al-Bukhari cache sa science ou montre sa science à travers les titres, à travers les regroupements qu'il fait. Parce que chaque chapitre, Al-Bukhari lui fait un titre. Et pourquoi Al-Bukhari choisit de mettre ce hadith sous ce titre-là? Ben, toute la science de Al-Bukhari, elle est là. Les savants disent, hein, le ilm Al-Bukhari fi abwabi Al-Hadith. Comment il a classifié les hadiths? Et le même hadith Bukhari, il l'amène ici, dans ce chapitre, il l'amène dans un autre chapitre, le même hadith. Hein. Parfois, il y a le Bukhari, il a dans son livre les hadiths qui sont doublés, on dit les doublés, les hadiths doublés, il les cite ici et il le cite ici. Et parfois, le Bukhari, qu'est-ce qu'il fait? Il cite la moitié du hadith ici, c'est le même. Hein. Et la moitié de l'autre hadith dans un autre chapitre pour que ça corresponde à la classification qu'il veut. Al-Bukhari, radiallahu anhu, il a écrit un chapitre. Bab, le chapitre. Fadlu man mata lahu waladun fahtasab. La récompense de celui qui perd un enfant. Il perd un enfant. Un enfant meurt, son enfant meurt, donc il patiente, il attend la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il accepte en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sous ce chapitre, Al-Bukhari, il va donner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma min al-nas muslim, aucun musulman, yutawaffa lahu thalath, qui perd trois de ses enfants, qui ne sont pas pubères, illa adkhalahu Allahu al-jannata bi rahmatihi rahmatahu iyyahum. Allah lui donne le paradis pour sa patience, bi fadli rahmatihi iyyahum. Donc parce que Allah a fait miséricorde à ses enfants, ben la miséricorde d'Allah pour les enfants va aussi toucher le père ou la mère, bien sûr. La mère encore, raison de plus. Les parents. Et un autre hadith que rapporte Bukhari, dans ce même chapitre, il dit, les femmes étaient là, et les femmes demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, est-ce que tu peux nous consacrer un jour pour les rappels, pour les exhortations? Tu es toujours avec les hommes, on aimerait bien avoir une séance particulière pour nous, pour qu'on puisse te poser des questions, pour qu'on puisse... Un jour, le professeur est venu et il les a exhortés. Chaque femme qui a perdu trois enfants, كانوا لها حجابا من النار. Ces enfants seront pour elle un obstacle devant l'enfer. Hijab, hijab, c'est un obstacle, un rideau devant l'enfer. Donc elle ira pas en enfer. Il y a une femme intelligente, elle dit, Ya Rasulallah, et deux. Elle avait deux parce qu'elle avait perdu deux. Elle a patienté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et deux aussi. Quelqu'un qui perd deux enfants, une femme qui perd deux enfants et qu'elle patiente, qu'elle accepte. Quand on dit patienter, c'est pas ne pas pleurer. Hein. Pleurer, c'est humain. Pleurer, c'est humain. Maintenant, dans le cœur, il ne faut pas qu'il y ait de la colère contre Dieu. Il y a les gens qui sont en colère contre Dieu parce que ils te disent pourquoi Allah a fait ça et pourquoi Allah m'enlève mon enfant maintenant. Avec les paroles, on voit aussi des paroles qui se dépassent. Non, je pleure, bien sûr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a perdu son fils dans ses bras. Il dit, les yeux pleurent, le cœur s'attriste. Et on ne dit que ce que Allah agrée. Ça, c'est la parole d'un croyant, d'un musulman. Quand il est touché par n'importe quel malheur, tu te rappelles de la mort, et quand tu te rappelles de la mort, tout est relativisé. Tout ce qu'il y a dans cette vie-là va se relativiser. Parce que la mort, c'est quelque chose qui va te toucher toi-même. Et nous sommes très attristés par cette séparation. Il y a Ibrahim. Ibrahim était dans ses bras mourant. Il a perdu Ibrahim, il a perdu Abdullah, il a perdu Al-Qasim. Le prophète Hassan l'a perdu. Il fait partie de ces gens-là qui ont patienté, qui ont accepté la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et deux. وَعَقَدَ بَابَ الْآخَرِ Bukhari, il a fait un autre chapitre. Et quel était le titre de ce chapitre? Babu Marina fi Aulad al-Mushrikin, maintenant. Donc, là, on est en train de parler des enfants des croyants, des enfants dont les parents sont croyants. Bukhari, il a cité donc un hadith de Abu Huraira qui parle de Aulad al-Mushrikin, les enfants des Mushrikin, des non-croyants. Man mata lahu thalathun min al-walad lam yablughu al-hanath kanu lahu hijaban min an-nar. أو دخل الجنة وقال وحديث البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة quand le prophète s'est perdu son enfant Ibrahim, il dit il a une maman qui l'allait au paradis, une femme qui l'allait au paradis. Donc Ibrahim sera au paradis. On parlera après des enfants des non-musulmans et la divergence sur les savants concernant les enfants des non-musulmans. Donc, ce chapitre-là qu'on est en train de traiter, c'est des enfants des musulmans. Même si Bukhari, tout à l'heure, il parle des enfants des non-musulmans, mais il a cité un hadith qui parle des enfants des musulmans. On reviendra après. وَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ صَرِيحَ فِي إِدْخَالِ ذُرِّيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ عن عبد الله بن أحمد في زيادات المسند إن المسلمين وأولادهم في الجنة للمسلمين إلى أنفسهم تبعتي وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه. Les enfants sont en train d'écouter, d'attendre, ils sont déjà prêts, ils sont au paradis, en train d'écouter, d'attendre l'arrivée de leurs parents. يَتَلَقَّ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ Il va à la rencontre de son père. أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ Ou ses parents, son père ou ses parents. فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ Il le tire par les habits. أَوْ قَالَ بِيَدِهِ Ou par la main. كَمَا أَخَذُ أَنَا بِسِنْفِهِ ثَوْبِكَ هَذَا Il lui a montré comment il a pris ses habits, le rawi al-hadith. فَلَا يَتَنَاهَا أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةِ Donc cet enfant-là va venir, il va tirer les habits de son père ou de ses parents et il finira par l'amener avec lui au paradis. Donc les enfants, ils sont en train d'attendre l'arrivée de leurs parents. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. Les enfants des croyants sont au paradis sous la protection de Ibrahim alayhi salam. C'est leur kafil. Le kafil, c'est celui qui les prend en charge. Il va leur enseigner. Donc les enfants des musulmans sont au paradis. Et ce hadith, même s'il n'est pas dans le Bukhari, il est muslim. J'ai dit qu'il a été rapporté par l'imam Ahmed ou Ibn Hibban ou Al-Hakim. Ils n'ont pas dans le Bukhari muslim. Mais c'est un hadith qu'on peut prendre. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. Ils sont sous la responsabilité de Ibrahim et de Sarah. Sarah, c'est la maman de Ishaq. Ismaïl, sa maman, c'est Hajar. Sarah, c'est la maman de Ishaq. Ibrahim alayhi salam, il avait Hajar et Sarah comme épouse. Sa première épouse, c'était Sarah. Et la deuxième, c'est Hajar. Et donc, Allah lui a donné deux enfants, Ishaq de Sarah et Ismaïl de Hajar. Et donc, Sarah sera avec Ibrahim alayhi salam, s'occupera des enfants des croyants. Elle dit hatta yadfa'uhum, jusqu'au jour où il donne les enfants à leurs parents. Amen. وقد نقل النووي اجماع من يعتد به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين في الجنه ونقل عنه انه توقف بعضهم في ذلك. النووي رحمه الله عليه, النووي c'est un grand imam. Il est شافعي, il est de l'école شافعي. النووي il est mort à 39 ans. Si on dit à 39 ans, c'est très jeune. Il est mort à 39 ans. C'est celui qui a écrit ce petit livre-là, Riyad al-Salihin. Le Riyad al-Salihin que tout le monde, et on l'a tous chez nous, hein, Riyad al-Salihin. Il est dans toutes les mosquées. C'est lui qui a choisi les hadiths de Riyad al-Salihin. Et c'est lui qui a écrit un grand livre dans le fiqh al-Shafi'i. C'est un grand Shafi'i. Et il a écrit aussi l'explication de Sahih Muslim. À 39 ans, il est mort. Et aujourd'hui, on a ses livres. Il a pris Sahih Muslim, 7000 hadiths, et chaque hadith, ben, il donne les explications détaillées de ce hadith. Ça fait 10 volumes, 10 grands volumes, Imam al-Nawawi. Il est mort à 39 ans, subhanallah. Tu dis, les gens avaient quand même. Al-Nawawi, il dit que les enfants des musulmans sont, selon la majorité des savants musulmans, au paradis. قال النووي توقف et il dit que certains savants ont dit c'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de dire, chacun est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, ça c'est aussi une bonne position. En réalité, on ne doit pas, il y a des règles, il y a des croyances, mais parfois il y a des choses qui concernent Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le paradis et l'enfer, qui sera au paradis, qui sera en enfer. Ben, il vaut mieux dire comme Isa alayhi salam, le prophète alayhi salam a fait une nuit à répéter ce verset: In tu'adhibhum fa innahum ibad. In tu'adhibhum fa innahum ibad. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. C'est toi qui les as créés. C'est toi le miséricordieux. Je ne peux pas être plus miséricordieux que toi. C'est toi le juste. In tu'adhibhum fa innahum ibad. Wa in taghfir lahum. Et si tu leur pardonnes, fa innaka anta. La. L'Aziz al-Hakim. Ici, Allah n'a pas utilisé, le Coran n'utilise pas wa in taghfir lahum. Et si tu leur pardonnes, fa innaka anta al-Aziz al-Hakim. C'est pas anta al-Ghafur al-Rahim. Ça aussi, il y a une leçon à tirer de ce verset-là. Parce que ici, le verset parle des personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé al-Aziz al-Hakim. Ils n'ont pas al-Ghafur al-Rahim. Donc, al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit ? توقف فيه بعضهم لحديث عائشة. Il dit, certains savants utilisent hadith عائشة. Il y a un hadith rapporté par عائشة qui laisse entendre autre chose. Et c'est pour ça que les savants disent, les hadiths, ben, on a l'impression que les hadiths ne vont pas tous dans le même sens. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est au cas par cas ? Certains savants disent, c'est au cas par cas. Allah subhanahu wa ta'ala jugera les gens selon les enfants selon sa miséricorde et sa justice. Il les jugera et c'est lui qui les connaît mieux que nous. Donc le hadith de Aïcha, c'est quoi? Un jour, un homme, un enfant de l'Ansar, un enfant des Médinois est mort. Faqultu, Aïcha dit, Touba lahu lam ya'mal su'an wa lam yudrik. Ah, il dit, bienheureux cet enfant, il n'a jamais fait de mal, et le mal ne l'a jamais touché. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, aw ghayra dhalika ya Aïcha. Dis autre chose, ya Aïcha. Inna Allah khalaqa al-jannati ahla. Il dit, et pourquoi tu dis ça, ya Aïcha? Dis autre chose, ya Aïcha. Allah a créé des gens pour le paradis. D'accord? Et si cet enfant n'en fait pas partie, ben, il ne le sera pas. Donc, ce hadith a laissé les savants un peu perplexes par rapport à cette question. Et cette question reste une question de divergence, même si la majorité des savants musulmans, quand ils parlent des enfants des croyants, ils disent qu'ils sont au paradis. قال النووي maintenant il va argumenter il dit والجواب عنه انه لعله نهاها عن المسارعه. النووي dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné cette remarque à Aïcha, il lui a donné pour ne pas se précipiter. C'est la précipitation. Ah, c'est bon, on est au paradis. Que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, on n'a pas le droit d'intervenir ou dire ah, c'est bon, lui le paradis est garanti. On ne peut rien garantir, il ne faut pas se précipiter pour les jugements. Donc il dit وَلَعَلَّهُ نَهَا عَنِ مُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ, sans avoir une preuve. أَوْ قَالَ ذَلِكَ, ou peut-être il l'a dit avant qu'il sache, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne lui a pas révélé à ce moment-là cette règle que les enfants seront au paradis. Il y a un autre verset aussi dans le Coran al-Karim. Quand Sayyidina Moussa était avec Al-Khadr, alayhi salam, il s'est passé quelque chose. Al-Khadr, qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il a fait un trou dans le bâton. Et là, ça va. Moussa, il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es un croyant? Tu ne vas pas faire du mal aux gens. Et là, ces gens-là, ils nous ont amenés avec eux pour traverser la mer. Et toi, tu fais un trou dans leur bâton. C'est injuste. Et Khadir alayhi salam lui a dit, ah, je t'avais dit de ne pas me poser de questions. C'est ton engagement, c'était de ne pas me poser de questions. Moi, je fais des choses que toi, tu ne comprends pas. La science qu'Allah m'a donnée, elle est différente de la science qu'Allah t'a donnée. Et je t'ai dit de ne pas me poser de questions. Sinon, on s'arrête là. Moussa lui dit, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai oublié. Et c'était vraiment un oubli. La première fois, c'était un oubli de la part de Moussa alayhi salam. Il a oublié. Et Moussa alayhi salam, c'était un prophète. Il n'aime pas l'injustice. D'ailleurs, quand il rentre dans la ville, il trouve quelqu'un se bagarrer avec un autre, il essaye de les séparer, Et quand il a trouvé que celui-là était injuste, ben, il lui a donné un coup. Il n'aime pas l'injustice, Moussa alayhi salam. Parce qu'Allah l'a élevé dans le foyer de l'homme le plus injuste au monde. Pharaon, c'était l'homme le plus injuste. Allah a fait en sorte que Moussa soit élevé ici, chez lui. Pharaon a cherché à tuer tous les enfants du monde. Allah lui a dit, attends, cet enfant-là, tu vas l'élever toi-même. Et ici, il sera lui la cause de la destruction de ton royaume. Subhanallah, quand Allah veut quelque chose. Et donc, Moussa n'aimait pas l'injustice. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il passe, ils sont en train de marcher, il trouve un enfant, il l'appelle, il le tue. Khadr alayhi salam, il tue un enfant. Et là, Moussa alayhi salam, il n'a pas oublié. Non, c'est pas un oubli, là, c'est plus fort que lui. Quelle injustice de tuer un enfant. Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Aqatelta nafsan? Nafsan? Zakiyatan? Wash? Et Hafs? Zakiyatan? Ici, la lecture elle est différente. Si on lit Wash, on dit Aqatelta nafsan zakiyatan bi ghayri nafs. Et si on lit Hafs, on dit Aqatelta nafsan zakiyatan bi ghayri nafs. Zakiyatan, zakiyatan. Et le sens est le même. C'est quoi zakiyatan? Zakat, c'est quoi? La purification, la bénédiction. Zakat. Zakiyatan, c'est quoi? C'est pur. Et cet enfant-là n'était pas forcément croyant. On ne sait même pas s'il était croyant ou pas croyant. Et Moussa, alayhi salam, il dit Aqatelta nafsan zakiyatan, une âme pure. Et ça, c'est une preuve. C'est-à-dire, dans la science de Moussa, un enfant, quels que soient ses parents, ben, c'est une âme zakiya. Donc, c'est une nafs zakiya. Puisqu'il n'a pas atteint la puberté, s'il meurt, il est au paradis. Et ça, c'est la preuve qu'utilisent beaucoup de savants, aussi pour les enfants des non-musulmans. Il n'y a pas que les enfants des musulmans. Les enfants des musulmans, c'est pratiquement unanimement reconnu par les savants. Al-Bukhari, concernant les enfants des non-musulmans, il m'a dit fi awladi al-mushrikin. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله c'est lui qui les a créés. Il sait ce qu'il allait faire. Allah sait ce que ses enfants allaient faire. D'accord ? Et donc Allah les jugera. En quelque sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas pris de position. Il dit ben, c'est pas à moi. Allah les jugera le jour du jugement dernier. Et Allah est plus miséricordieux que moi et toi, et même la maman de cet enfant. Le jour du jugement dernier, on te dira, est-ce que tu veux que ta maman vienne te juger? On te dira, on te donne le choix. Est-ce que tu veux que ta maman vienne te juger? On te donne ton livre, tiens. Ton livre, tout ce que tu as fait dans ce parent, tiens, lis-le. Tu dois le lire, tu vas le lire. Et après, les anges te proposent, tu veux que ta maman vienne te juger? Tu dis non, je ne veux pas que ni ma maman ni mon père, je veux que Allah me juge. Et parce que à ce moment-là, tu es certain et tu sais très bien que Allah sera plus miséricordieux avec toi que tes propres parents. Donc, le prophète n'a pas voulu se prononcer dans ce hadith. Donc, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. Regardez cet enfant-là que Al-Khadir alayhi salam a tué. Cet enfant que Al-Khadir alayhi salam a tué. Quand Al-Khadir alayhi salam a expliqué à Moussa, il lui a expliqué pourquoi il l'a tué. Pourquoi? Pourquoi Allah lui a ordonné de le tuer? Bien sûr, parce qu'il faut savoir une chose. Al-Khadir alayhi salam n'agit pas selon la loi divine. Il agit selon le qadar, selon le destin. Allah lui a donné un savoir qui n'est même pas accessible à Moussa. Nous, est-ce qu'on doit suivre Moussa ou Al-Khadir alayhi salam? Moussa alayhi salam. Hein? Moussa, c'est comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un prophète qui juge selon les règles qu'Allah a établies pour cette terre-là. Al-Khadir alayhi salam, quand il intervient, est-ce qu'il intervient selon ce qu'Allah a ordonné, ou est-ce qu'il au monde, ou est-ce qu'il intervient selon Al-Qadar d'Allah? Il intervient selon Al-Qadar d'Allah et non pas les règles de ce bas monde. Parce que les règles de ce bas monde, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Non. Est-ce qu'on peut faire du mal, détruire les biens des gens? Haram. Et c'est un grand péché, parmi les plus grands péchés. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas... Al-Khadir alayhi salam, c'est une exception. C'est une exception. Donc, et quelle est l'explication que Al-Khadir a donnée? Qu'est-ce qu'il a dit, Al-Khadir, à Moussa? Cet enfant-là, hein, si je l'avais laissé, si sa vie ne s'est pas arrêtée là, qu'est-ce qu'il allait se passer? Il va devenir un tyran. Quelqu'un qui va rendre la vie mécréant. Et quelqu'un qui va rendre la vie infernal à ses parents qui étaient des parents pieux, des hommes pieux, un homme et sa femme, des gens bien qu'Allah aime, des alliés de Dieu. Donc ces deux personnes, Allah a pris leur enfant à ce moment-là. Mais si à ces deux parents, on vient dire votre enfant est mort, il serait triste ou pas? Bien sûr, très triste. Ils acceptent la peau parce qu'ils sont des croyants, vont accepter, mais ils ont une grande tristesse. Mais imaginez qu'Allah leur a montré l'avenir. Mais si cet enfant était resté vivant, regardez ce qui. Est-ce que la mort de cet enfant est un bienfait ou est-ce que c'est un malheur en réalité? dont l'apparence est un malheur, mais dans le destin de Dieu, c'est le plus grand bonheur. Pourquoi? Parce que Allah, dans l'histoire, on dit que Allah leur a donné à sa place une fille. Et cette fille-là, elle est devenue très pieuse. Elle était même la maman de quelques prophètes, cette fille-là. La fille qui a remplacé, par laquelle Allah a remplacé cet enfant qui est mort. Regardez, le bienfait d'Allah à travers une épreuve, à travers la mort d'un enfant, Allah, déjà, il leur a épargné, non, ils sont tristes, mais il leur a épargné de voir cet enfant mécréant. Cet enfant qui leur rend la vie infernale. Et Allah leur a remplacé par une fille qui était devenue une femme pieuse. Donc, quand on fait in fine, si on connaissait le destin, on dit, ben, c'est le meilleur choix qu'Allah a fait pour eux, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahu a'lam, Allah sait ce qu'ils allaient faire. Parce que le destin de chacun de nous est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, attention, quand on dit que le destin est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, bon, ça c'est dans la science d'Allah. Mais ce que nous, on a l'accès à la science d'Allah, on n'a pas accès à la science d'Allah. Et chacun de nous agit, doit agir, doit faire. Allah nous donne le libre arbitre, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le choix de faire le bien ou le mal. Donc on va finir, inshallah, la prochaine, le vendredi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, sur cette question et d'autres questions, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.